أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Dieu, Seigneur des terres et des cieux. Que la paix de Dieu soit sur Mohammed et sur sa sainte famille. Nous entamons notre première émission, en fait, puisqu'hier était une émission d'introduction, sur justement les effets, les bons comportements du croyant, ou plutôt de l'être humain, afin d'arriver à la perfection. Ces bons comportements nous sont enseignés par le Coran. Le thème d'aujourd'hui, si Dieu nous l'accorde, nous parlerons de la croyance. Car la croyance est un bon comportement, c'est-à-dire un comportement qui permettrait à l'homme d'arriver à la perfection. Commençons par le verset numéro 139 du chapitre 3, la famille d'Imran. Ce verset dit, ou une partie de ce verset dit, « Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin » Ce qui veut dire, vous serez, vous êtes des hommes supérieurs si vous êtes des croyants. Ce verset en dit beaucoup. Dans un monde actuel, dans le monde où la force économique, la force matérialisme qui existe, dans un monde où la consommation, l'emprise même et la consommation, on reconnaît un être fort, non pas parce qu'il est économiquement riche, non. Un homme fort est un homme qui se maintient dans ses principes. C'est ça ce qu'on appelle un homme supérieur. Si vous rencontrez quelqu'un en face de vous qui vous dit que non, je ne veux pas faire cela, pourquoi? Parce que mes principes me l'interdisent. À ce moment-là, vous trouvez en face de vous une personne très forte. Plus forte que quelqu'un qui dit oui à tout moment. Si, par exemple, vous rencontrez une personne qui suit le mouvement, c'est-à-dire qui fait ce qu'on lui dit de faire, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous dit que demain, il ne va pas changer? Si aujourd'hui, par exemple, il boit du Coca-Cola, qu'est-ce qui vous dit que demain, il ne va pas se mettre à l'eau? Rien ne vous indique qu'il suit des principes ou qu'il a des choses qui lui permettent d'être stable dans un monde actuel. Par contre, si vous avez quelqu'un qui, par principe, ne boit pas d'eau, ou par principe, ne boit pas de Coca-Cola, si c'est par principe qu'il ne boit pas de Coca-Cola, à ce moment-là, à n'importe quel moment de sa vie, il se maintiendra sur sa position. Et ce principe, en fait, fait de lui un homme fort. C'est pour ça que Dieu dit, vous êtes des hommes supérieurs si vous êtes des croyants. La croyance, c'est quoi? C'est le fait d'accepter des règles qui sont autour de nous et qui nous permettent de vivre correctement. Revenons à ce qu'est un croyant en fait. Le croyant dans l'islam, on le retrouve dans le verset numéro 2 du chapitre 8, les butins. Ce verset dit ceci. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ce verset dit ceci. Seuls sont vraiment croyants dont le cœur frémisse à la mention du nom de leur Seigneur. Ceux dont la foi augmente lorsque l'on récite Alors, ils ont traduit ça par ces versets. Je le traduirais plutôt plus directement par ces signes. Ceux dont la foi augmente lorsqu'ils voient les signes de son Seigneur. Ils se confient en leur Seigneur. Le croyant, c'est cette personne qui sait ou qui comprend que Dieu existe. Et pas simplement le fait de comprendre, voir au travers des signes de Dieu, plus de signes, plus de certitudes dans l'existence de Dieu. Le croyant, c'est celui qui s'émerveille devant une rose. Le croyant, c'est celui qui voit quand l'oiseau s'envole, les mains de Dieu, entre guillemets les mains de Dieu, qui soutient les ailes de l'oiseau. Le croyant voit partout Dieu et voit partout les signes de Dieu. Que ce soit un oiseau, que ce soit un écureuil, que ce soit une tempête, que ce soit de la neige qui tombe ou une pluie. Tout cela le réconforte dans sa croyance en Dieu. Regardez les belles choses qui sont autour de vous. Regardez cette rose fragile. Vous êtes-vous demandé pourquoi une rose dont la tête, c'est-à-dire là où se trouvent les feuilles de la rose, qui est plus lourde que la tige, par l'effet de l'apesanteur ne tombe pas, mais monte, monte vers le ciel. Vous êtes-vous demandé comment un oiseau fait pour s'envoler? Oui, on explique ça par l'effet des courants d'air et des effets air chaud et froid. Mais réellement, quand vous connaissez les équations de tout cela, vous dites, mais ça tient à vraiment peu de choses. Il suffirait d'un seul petit paramètre, d'un seul petit pour que l'oiseau tombe. Et en fait, nous, depuis des siècles et des siècles, on essaie de faire en sorte qu'un avion, qu'un être humain vole. C'est maintenant simplement qu'on a réussi à créer les avions et qu'on a réussi à s'envoler dans les cieux. Les équations étaient très difficiles à terminer. En fait, on voit que tout ne tient qu'à peu de choses. Et ce peu de choses, cet équilibre entre les choses, c'est là qu'on retrouve que il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui maintient cet équilibre. Il est très fragile de créer de la neige. C'est très difficile d'arriver à former de la neige. Il faut les équations et les conditions adéquates pour former de la neige. Qui peut former ces équations adéquates? Certains disent que non, c'est la forme naturelle des choses, l'équilibre naturel. D'accord, il existe un équilibre naturel. Mais si on laisse cet équilibre, alors, si on laisse cet équilibre et qu'on y met un être comme l'être humain capable de détruire cet équilibre, depuis longtemps, les choses auraient tourné au chaos. Mais il y a une force qui maintient cet équilibre. Disons que Dieu aurait créé l'univers et que l'univers serait sous une forme constante. Alors comment expliquer alors que l'homme qui a la force de pouvoir jouer, de pouvoir changer les paramètres autour de lui, ne puisse pas détruire, ne puisse pas former un chaos complet dans cette nature? C'est là qu'on retrouve les signes de Dieu. Un autre verset qui montre en fait la récompense que l'on a à croire en Dieu. En fait, c'est un groupe de versets. Ceux qui croient en Allah et au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte et ils ne seront pas affligés. On retrouve ça dans le chapitre 2, verset 62. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
Alors qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit ceci: ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier et qui font le bien. Et ça, c'est un point intéressant, c'est que le fait de croire ne suffit pas. Le fait simplement de dire je crois en Dieu ne sert à rien si, d'un autre côté, on ne fait pas quelque chose pour cela. Il y a ce qu'on appelle l'action et ce qu'on appelle la réaction. Le fait de vouloir faire quelque chose entraîne une action, une réaction. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai faim et que je ne veux pas pouvoir manger, ma faim reste ma faim. Par contre, si je bouge, que je vais chercher du pain, que je mange le pain, à ce moment-là, ma faim est rassasiée. L'action, le fait de penser, d'avoir un besoin, entraîne automatiquement une action. Ceux qui croient en Allah, en Dieu, et sont obligés de faire du bien. Donc, un des résultats de la croyance, en fait, c'est que toute personne qui croit en Dieu, en un Seigneur, en un Maître, sachant que ce Maître est souverain, que ce Maître le regarde, sache qu'un jour où il devra rendre les comptes de toutes ses actions, à ce moment-là, il ne peut faire que du bien autour de lui. Voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Bien sûr, puisque le fait simplement de faire l'action, de croire en Dieu et de faire l'action bien autour d'eux, on arrive simplement à une récompense auprès du Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte. Ils ne seront pas affligés. Ils n'éprouveront plus aucune crainte ici-bas et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est normal. Mais ici-bas aussi, puisque l'être croyant se retrouve complètement apaisé dans la mesure où il sait qu'ils n'auront de compte à rendre qu'à son Seigneur. Et que face à son Seigneur, il est en train de faire que du bien. Donc, le jour du jugement dernier, et même dans sa vie de tous les jours, il n'a pas de problème. Un autre verset qui dit, on le retrouve dans le chapitre 10, verset numéro 9. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ceux qui croient et accomplissent des œuvres bonnes, leur Seigneur les dirigera à cause de leur foi. Alors, c'est un le fait simplement de croire en Dieu, d'agir correctement dans ses actions parce qu'on croit en Dieu, le retour se fait où? Le retour, il se fait que Dieu nous guide, nous dirige pour qu'on fasse plus de bien. En fait, c'est un cercle qui se forme. On croit en Dieu, on fait du bien. Et comme on fait du bien, Dieu nous aide à faire plus de bien. Donc, plus on fait de bien, plus on a de signes de Dieu autour de nous, plus notre foi augmente, plus nous croyons en Dieu et plus nous faisons du bien. Donc en fait, l'être humain qui commence à croire en Dieu et qui commence à faire du bien autour de lui, par crainte, plus que crainte, par nécessité de plaire à son Seigneur, à ce moment-là, Dieu ne fait qu'augmenter sa foi. On retrouve aussi un autre verset dans le chapitre 23, les versets 1, 2 et 3. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ الْمُعْرِضُونَ. Heureux les croyants qui sont humbles dans leur prière et qui évitent les propos vains. Le croyant est donc cette personne qui croit en Dieu, croit au jour du jugement dernier, de ce fait agit correctement et de ce fait se voit octroyer une foi plus importante et ainsi devient plus humble dans sa prière. Heureux à ce moment-là ce croyant qui au moment de sa prière pleure, crie à son Seigneur. La prière devient à ce moment-là un refuge du croyant vers son Seigneur et qui évite les propos vains. Pourquoi? Parce que parler autour de lui, parler avec des gens qui sont ignorants, En fait, il se retrouve à ne parler qu'avec son Seigneur. Il ne se retrouve qu'à aimer, qu'à craindre que son Seigneur, qu'à vouloir que son Seigneur. Et Dieu leur donnera à la fin l'immortalité. L'immortalité, le jour du jugement dernier, l'immortalité dans les jardins du paradis.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس فردوس النزول خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا.
On retrouve dans le chapitre 18, versets 107 et 108. Ceux qui auront cru, qui ont accompli des œuvres bonnes, habiteront les jardins du paradis, où ils demeureront immortel, sans désirer aucun changement.
On arrive à ceci. La force du croyant est de pouvoir vivre dans un monde où il arrive à exprimer vers son Seigneur sa vision des choses. Le croyant est celui qui voit son Seigneur dans toutes les choses qui se passent autour de lui. Le croyant est celui qui veut aller vers son Seigneur, qui veut retourner vers son Seigneur. Le croyant est cette personne qui est supérieure par sa croyance sur les autres hommes. Regardez simplement, bon, imaginez simplement un homme croyant. Prenons un chrétien qui croit en un Dieu, qui croit que ce Dieu, le jour du jugement dernier, le jugera sur ses actions. Que va faire ce chrétien? À quel moment peut-il faire du mal? Il aura peur? Non, il n'a pas peur, mais il a simplement conscience de lui. Le fait simplement d'être conscient que son Seigneur le regarde, que son Seigneur le juge à tout moment. Que son Seigneur est clément et miséricordieux. Oui, bien sûr, il est clément et miséricordieux. Mais par sa clémence, est-ce que nous avons le droit, nous, de dépasser cette clémence? Le croyant ne peut faire que du bien autour de lui. Et le fait de faire du bien autour de lui fait de lui un homme fort. Vous le mettez dans une situation, n'importe quelle situation, vous le mettez dans une situation où il y a risque pour ce croyant de se perdre. Par exemple, vous le mettez dans une situation de devenir ivre par l'alcool, en buvant, et faire du mal autour de lui. Si c'est un vrai croyant, il ne peut pas faire cela. Vous le mettez dans une situation où vous le mettez face à de l'hypocrisie, où vous le mettez dans une situation où il se retrouve à voler quelque chose. Non, le croyant ne volera pas. Le croyant ne mentira pas. Il restera droit sur son chemin. Car il est croyant, car il croit en un Dieu unique. Et c'est cette force qui fera de lui un homme supérieur. On sait pertinemment que cet être est un croyant. Et comme il est croyant, il ne faiblira pas. Comme il est croyant, il ne mentira pas. Comme il est croyant, il ne fera pas de mal. Pourquoi a-t-on peur des gens? Pourquoi a-t-on peur de quelqu'un? Parce qu'en cette personne en face de nous, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il va faire, quels sont son comportement. Qu'est-ce qu'il fera demain? Si une personne est un menteur, à quel moment est-ce que vous pouvez savoir s'il dit la vérité ou s'il ment? Par contre, si une personne est un croyant, et vous savez qu'il croit en Dieu, à ce moment-là, toutes ses actions vous rassurent. Parce que vous savez qu'il ne peut pas faire cela. Et si jamais un jour, vous le voyez en train de mentir, ben il suffira simplement de lui dire « Hé, je croyais que tu étais croyant. » Et cela le tomassinera. Pourquoi? Parce que s'il se dit réellement croyant, qu'a-t-il? Il a fait du mal. Il avait quelque chose que son Seigneur ne veut pas. Et en fait, les gens le jugent sur sa croyance. Plus une personne est croyante,
plus il se retrouve dans un environnement où les gens veulent de lui plus de force dans sa croyance. Et il se cachera de ses actions mauvaises, s'il en a. Et à force de se cacher, de se cacher, de se cacher, automatiquement, ses actions mauvaises disparaîtront. Jusqu'à quel point une personne peut-il faire du mal à l'insu de tout le monde? Il ne peut pas. Au bout d'un moment, il est obligé d'arrêter de faire du mal. Les gens pensent qu'il est un croyant. Les gens croient. Et c'est à ce moment-là que Dieu, en fait, dit que nous le récompenserons, que nous le guiderons, que nous le dirigerons à cause de sa foi et que nous lui octroyerons plus de choses dans ce monde pour qu'il puisse vivre mieux ici. Donc, je répète à peu près les versets que nous avons vus afin qu'on ne soit pas... peut-être on est allé un peu vite pour l'énumération des versets. Donc on avait le verset 139 du chapitre 3, la famille d'Imran, qui disait « Vous êtes des hommes supérieurs si vous êtes croyants ». On a ensuite parlé du chapitre 2, la vache, numéro 62. Ceux qui croient en Allah et au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte et ne seront pas affligés. Puis nous avons parlé du chapitre 8, verset 2. Seuls sont vraiment croyants ceux dont les cœurs frémissent à la mention de leur Seigneur, ceux dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces signes, qu'on leur montre ces signes. Ils se confient en leur Seigneur. Puis le verset 9, chapitre 10, qui disait « Ceux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes, le Seigneur les dirigera à cause de leur foi. » Et enfin, les deux derniers chapitres, chapitre 23, versets 1, 2, 3, « Heureux les croyants qui sont humbles dans leur prière et qui évitent les propos vains. » Et chapitre 18, versets 107 et 108. Ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres bonnes habiteront les jardins du paradis où ils demeureront immortels sans désirer aucun changement. Donc, je pense que ici, on peut arriver à une conclusion. La conclusion est la suivante. Il existe deux types de personnes dans le monde. Des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Si une personne ne croit pas, elle vit dans un monde où il n'y a aucune force capable de le diriger. Qu'est-ce qui fait qu'une personne fasse du bien ou fasse du mal? Une conscience dirigée par quoi? Si je considère que le fait de mentir est une bonne action. Qu'est-ce qui empêche le fait de mentir? Je prends un exemple simple. Je prends un père de famille qui a des enfants, qui a 5 enfants, et qui n'a pas les moyens de nourrir ses enfants. Et il dit que si je ne mens pas pour faire mon travail, à ce moment-là, je n'arriverai pas à nourrir mes enfants. Donc, il vient de se mettre une nouvelle loi en disant que le mensonge m'est autorisé afin de nourrir mes enfants. Maintenant, que l'on considère que ce mensonge est légitime ou illégitime, si on le considère comme légitime, à ce moment-là, à quel moment est-ce que cette personne s'arrêtera de mentir? Si aujourd'hui il ment et qu'il puisse par ce mensonge nourrir sa famille, quand sa famille n'aura plus besoin d'être nourrie, s'arrêtera-t-il de mentir? Non. Pourquoi? Par la simple bonne raison qu'il aura pris une habitude et qu'il aura su que le mensonge lui ouvre beaucoup plus de portes. Et à ce moment-là, il n'y a plus de frein à cela. Par contre, si une personne croit en Dieu, dans la même situation, et qu'il sait que par mensonge, il peut nourrir sa famille. Peut-être qu'il va se trouver une excuse. Peut-être qu'il va se dire, qu'il va se légitimer ce mensonge et qu'il va dire qu'il faut que je mente pour pouvoir nourrir ma famille. Mais une chose est sûre, c'est au fond de lui que le mensonge n'est pas bon. Que le mensonge n'est pas accepté. Il fait ça pourquoi? Pour se justifier devant son Seigneur le jour du jugement dernier. Mais quand il n'a plus de preuves ou plus de justification, quand sa famille sera finalement nourrie, au fond de lui, il sait très bien qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il y a un deuxième point qu'on arrive à une conclusion, qui est un point intéressant dans la mesure où qu'est-ce qu'on définit par un péché, finalement? Le péché est-il celui qui est écrit dans les livres et qui dit que le péché, les sept péchés, les dix péchés, les sept péchés éternels ou les sept péchés qui sont horribles face à son Seigneur? La conclusion se trouve ici, c'est que, en fait, une personne qui fait, qui croit en son Seigneur, qui agit parce qu'il sait que le jour du jugement arrive. On avait vu ça en disant, ils n'éprouveront plus alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Cette crainte et cette affligation qu'on a lorsque on fait un péché, le fait de simplement de se dire dans sa tête ou de se reprocher, d'avoir un doute sur l'action qu'on a fait, cela suffit. Si on fait une action et qu'on se demande si on a un regret sur l'action qu'on a fait, ça veut dire que finalement, en face de son Seigneur, on regrette cette action. On a un doute sur ce qu'on a fait. Et ça, en fait, c'est un péché. Dieu le pardonne. Dieu pardonne les péchés. Mais la définition même du péché, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Dieu, qu'il me dise franchement que je ne crois pas en Dieu parce qu'il n'existe pas et parce qu'il n'y a pas de Dieu. À ce moment-là, je lui demanderai si, au fond de lui, dans le plus profond de son âme, il croit vraiment que Dieu n'existe pas. Si la personne qui croit ne cherche pas à justifier sa croyance, il ne cherchera pas à dire « Non, je crois que Dieu existe. » Il croit, un point, c'est tout. Par contre, une personne qui ne croit pas essaiera de justifier par tous les moyens sa non-croyance. Et dira « Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que ceci, pourquoi? Parce que cela. » Ce pourquoi qu'il essaie de se trouver, cette raison qu'il essaie de déterminer, aussi bizarre que ça paraisse, en fait, cette raison est une forme de perte de lui. Il n'a pas la preuve. C'est ça qu'il cherche, une preuve. Le croyant, lui, ne cherchera pas à démontrer qu'il croit. Il vous dira « croyez ». Il ne vous dira pas « je crois parce que ». Si vous lui demandez pourquoi il croit, il vous dira « non, je crois, c'est tout ». Alors que le non-croyant, lui, essaiera de vous dire, si vous lui demandez « mais pourquoi tu ne crois pas ?»« Ben parce que. » »« Parce que quoi ?»« Parce que quelque chose qu'il faut que je me justifie en face de quelqu'un, en face de vous. » Cette justification, cette forme de justification, en fait, c'est le début d'un péché. Si vous faites une action et qu'on vous demande « pourquoi avez-vous fait cette action ?» et que vous dites « je l'ai fait parce que il valait mieux le faire ou parce que ceci. » À ce moment-là, vous pensez bien que vous avez fait un péché. Par contre, si vous le dites, je l'ai fait parce que c'était bien. Je l'ai fait parce que je devais le faire. À ce moment-là, il n'y a plus. Si cette personne, ce père de famille qui a 5 enfants, qui doit nourrir ses enfants, doit mentir et qu'il dit je mens parce que je dois nourrir mes enfants, ce parce que je dois nourrir mes enfants n'est pas naturel. Ce mensonge n'est pas naturel. Quand il dira « je mens parce que je dois le faire », à ce moment-là, ce mensonge est pardonné, n'est plus un péché. Pourquoi? Parce que c'est une obligation, c'est un état où il doit le faire. Et il n'a pas d'autre choix. Et c'est au moment où est-ce qu'il arrêtera de dire maintenant de mentir, je dois dire la vérité, qu'il pourra changer, qu'il pourra faire les choses évoluer. Voilà donc en conclusion ce qu'on aurait pu dire pour cette première émission de la forme pour arriver à la perfection par rapport au Coran.